qu'on souhaite faire, évidemment, c'est repenser, surtout faire peut-être le constat de l'épuisement de tout un ensemble de pensées aménagistes qui continuent à se déplacer. Qu'est-ce qui, dans notre imaginaire, dans les représentations, dans les mots qu'on utilise pour penser l'aménagement du territoire, nous paraissent complètement obsolètes? Et cet exercice nous semble indispensable avant de refonder. Donc vous voyez bien comment on a conçu, je dirais, ce colloque avec des journées de retour rétrospectif, plutôt, voilà, pour se mettre d'accord sur ce qui, venant du passé, doit être abandonné, ce qu'on doit conserver précieusement comme étant quelque chose qui sera utile pour le futur. Donc on a besoin de faire ça avant de refonder. Alors cette invocation permanente de l'aménagement du territoire, vous le savez bien, la période, dès qu'on parle d'aménagement, dans toutes les têtes, en France en tout cas, on évoque cette période des années 1960 à 75, cette époque où on a créé la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire à l'action régionale en 63, et ça c'est très présent, voilà, dans notre imaginaire de cette grande politique d'aménagement du territoire, avec des actions très connues, les villes nouvelles, les zones industrielles ou portuaires à Dunkerque, à Fos, avec voilà, le plan d'aménagement du littoral languedocien, etc. Tout un tas de grandes politiques d'aménagement qui sont voilà, très présentes dans... Voilà, dès qu'on dit aménagement du territoire, on a ça dans la tête. Et derrière cette image, c'est un peu... Qu'est-ce qui est évoqué? On va dire ces trois grandes choses. C'est déjà un volontarisme politique très puissant. On dit, voilà, une époque de volontarisme politique. On y loue aussi une forme d'intelligence collective des acteurs qui ont participé à cette politique, une intelligence, voilà, où on a une époque où on a vraiment mêlé de la manière la plus heureuse possible dans cette image-là, l'intelligence qui vient de l'université, des grandes entreprises, de l'administration, etc. Et tous ces gens-là auraient voilà, su créer quelque chose d'intelligent, d'anticipateur, etc. Et puis, la troisième chose qu'on loue dans cette image, c'est une forme de souci de l'égalité du territoire, un volontarisme au service de l'égalité, du développement, puisque c'était le développement du territoire national, et derrière aussi d'une forme d'unité de la nation qui se reconstituait bien heureusement. Et cette image, elle est encore très présente pour des raisons qui relèvent peut-être de cette politique elle-même, mais aussi de la manière dont cette politique a été pendant longtemps racontée. C'est une politique qui, cette époque, et c'est intéressant d'ailleurs, Edith, de tous les livres que tu présentes avec d'autres, enfin dans le choix, parce que c'est vrai, il y a toute une sélection d'ouvrages particulièrement intéressants, et dans beaucoup d'entre eux, sur cette période-là, ce sont beaucoup les acteurs eux-mêmes qui l'ont raconté d'une certaine manière, en créant, voilà, peut-être avec, je dirais, le souvenir heureux de leurs jeunes années professionnelles, en faisant quelque chose d'absolument peut-être un peu merveilleux. Il ne s'agit pas du tout dans notre propos de faire une contre-histoire, de démolir non pas le père, mais le grand-père. Ce n'est pas du tout ça que l'on souhaite faire, mais c'est plutôt faire non pas cette contre-histoire, mais le constat lucide de l'épuisement d'un certain nombre de solutions qui venaient de cette époque-là, parce que je dirais qu'on en a besoin, parce qu'en fait, ce qu'ils nous ont légué, c'est non seulement cette époque, mais je pense que tu y reviendras, Martin, aussi un certain nombre de mots de l'aménagement, de mots, de vocabulaire, de concepts qui sont toujours très présents. C'est-à-dire que c'est très particulier comment dans l'aménagement du territoire aujourd'hui, on parle toujours d'équilibre, d'armature, d'égalité, etc. Tout un ensemble de mots qui ont été posés à cette époque-là et dont aujourd'hui on joue toujours avec les mêmes termes d'une certaine manière. Donc ils nous ont légué beaucoup de choses et ça nous semble important. Voilà, et cette histoire-là, je ne suis pas du tout historien, il y en a qui sont les deux, qui sont historiens et géographes, je suis plus modestement géographe, un peu versé dans les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire, mais quand même, quand on revisite aussi sur cette image, on est quand même un peu obligé, cette grande image, quand même et c'est bien évident de voir comment, comme toute image d'une certaine manière, elle est très très imparfaitement représentative de la réalité. Parce qu'en effet, cette politique, d'une certaine manière, elle vante, quand on la reconstruit, quand on voit dans les ouvrages, elle met en avant trois éléments. Sa cohérence, son exceptionnalité et sa puissance. Sur cette cohérence de cette grande politique d'aménagement du territoire, on pourrait dire des 30 glorieuses, qu'on pourrait dire, elle a un peu commencé dans les années 50 avec Claudius Petit, qui en 1950 fait son petit fascicule assez connu dans notre monde sur l'aménagement du territoire jusqu'aux années 75. on loue énormément cette cohérence de cette politique qui aurait été le versant spatial heureux du keynésianisme de cette époque, c'est-à-dire de ce renforcement de la puissance de l'État dans le système économique. Et d'une certaine manière, voilà, cette politique d'aménagement du territoire aurait été, le volet spatial de tout ça pour le déploiement heureux de l'industrie sur le territoire national. On aurait eu cette politique qui aurait accompagné cette industrialisation de la France au service de cette nouvelle étape d'industrialisation de la France et qui aurait été au service de sa puissance, de cette réindustrialisation d'après-guerre et qui en aurait été non seulement au service de cette industrie mais aussi au service social de son déploiement d'une certaine manière puisqu'elle aurait répondu à ses aspirations. Donc cette grande cohérence, voilà, après coup, on le sait bien toujours, oui, bien sûr, cohérence, mais quand on relit l'histoire, on voit bien que toutes ces décisions sont faites, voilà, comme toujours, en 1955, on fait l'agrément qui fait que les industries ne peuvent plus venir à Paris. C'est avant la Datar, c'est 8 ans avant. Après, il y a eu la Datar, et même toutes ces grandes décisions de la Datar, sur les villes nouvelles, les ZIP, etc., on voit quand on regarde, voilà, il y a quand même eu, des éléments d'aléatoire, de bricolage, etc. Et c'est vraiment peut-être une reconstitution a posteriori que d'en faire véritablement ce système extrêmement bien élaboré, etc. Et c'est plutôt une reconstruction historique, bien sûr. Voilà, cette cohérence, interrogeons-la quand même. Deuxièmement, l'exceptionnalité, ça je pense que Frédéric en parlera. Oui et non, parce qu'avec le recul historique, par exemple, cette politique de décentralisation industrielle française, finalement, est très copiée sur ce que les Anglais ont fait une décennie avant nous. Ces grandes politiques de rééquilibrage régional, Giuseppe en parlera, qu'on a eu en France, finalement, les Italiens l'ont fait quasiment en même temps, avec des succès très différents, d'ailleurs, dans les deux pays. Mais finalement, l'exceptionnalité peut être française et peut-être à relativiser grandement dans la manière dont tout ceci a été posé. Ensuite, sur sa puissance, et ça aussi, c'est très lié au sujet du colloque, même dans cette grande période-là, le grand absent, c'est quand même les politiques des réseaux. Parce que si la politique d'aménagement était évidemment puissante, à l'époque, la politique des transports a grandement échappé à ceux qui étaient estampillés aménageurs. Par exemple, donnons un exemple, la politique de grande vitesse ferroviaire n'a pas du tout été conçue dans les cénacles aménagistes, mais dans une entreprise de transport, la SNCF, pour répondre à ses préoccupations, etc. Et donc là, il y a des connexions. La politique de l'énergie, dont nous parlerons beaucoup, et notamment les grands choix sur le nucléaire des années 70, etc., pareil, n'ont pas été faits, dans ces cénacles-là. Donc, d'une certaine manière, ne nous battons pas trop la coulpe aujourd'hui sur se dire « Oh là là, aménagement réseau, c'est compliqué ». Les grands réseaux, d'une certaine manière, ont pour beaucoup d'entre eux toujours échappé et ont été rattrapés difficilement, par ces politiques aménagistes. Donc aujourd'hui, ce colloque, évidemment, c'est important de revenir à cette image parce qu'elle est toujours présente, mais même si aujourd'hui, elle est ancienne. Mais aujourd'hui, peut-être, on en discutera, mais c'est notre hypothèse, c'est que l'idéologie de substitution des années 80 qui a voulu refonder l'aménagement est elle aussi morte, d'une certaine manière. C'est la deuxième mort que l'on va peut-être discuter aujourd'hui. C'est qu'en fait, après, dans les années 80, on a voulu refonder l'aménagement sur deux grands objets, deux grandes manières de refondation de l'aménagement qui n'ont pas du tout la même ampleur. Je vais commencer par celle qui me semble moins vive, et puis la deuxième. Comment avons-nous voulu refonder, recréer, etc. La première idée, c'est de finalement mettre l'aménagement au service de la compétitivité. Ça a été notamment, après 2000, l'attractivité, la compétitivité, les pôles de compétitivité, etc. De dire, voilà, l'aménagement aujourd'hui, ça va être ça. C'est ça, ça va être une idée forte. Ça a produit des choses. Les pôles de compétitivité, on ne peut pas dire que ça n'est rien produit, mais en fait, ça a été une refondation bien imparfaite, et c'est le jugement que je porte là-dessus, c'est qu'en fait, l'aménagement, on l'a mis au service d'une politique plus globale de développement économique à ce moment-là, mais d'une certaine manière, ça a été au service d'eux, mais en aucun cas, la pensée aménagiste a permis d'infléchir les politiques de développement économique. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, voilà, on a mis voilà, les politiques de compétitivité au service d'eux, on a repensé la place des métropoles, etc. Mais finalement, la pensée territoriale a été très faible dans sa capacité plus globale à repenser le développement économique du territoire. Et donc, finalement, c'était une refondation bien imparfaite et peut-être de faible ampleur. La deuxième, beaucoup plus puissante d'une certaine manière, c'est de dire, eh bien, aujourd'hui, quelle est la politique nationale d'aménagement du territoire ? La politique d'aménagement du territoire, c'est une forme d'accompagnement intelligent, d'accompagnement finalisé, on pourrait dire, des pouvoirs locaux. C'est-à-dire, c'est la décentralisation, c'est la politique de décentralisation, et cette idée que ce n'est pas simplement transférer du pouvoir aux collectivités locales, mais qu'on doit, je dirais, la charge de l'État, c'est d'accompagner ce déploiement des pouvoirs locaux et d'agencer ce déploiement pour aménager au mieux le territoire. Ça a été quelque chose de très important. Et qu'est-ce que veut dire pour l'État d'accompagner cette décentralisation ? C'est l'État doit charger de donner les bonnes échelles aux pouvoirs locaux. Ça a été vraiment tout un... D'inciter les pouvoirs locaux à agir avec les bons partenaires, d'agir avec les acteurs économiques, les acteurs sociaux. C'est pour ça qu'on fait à une époque les pays, qui est une manière de dire, voilà, on agence les pouvoirs locaux à la bonne échelle. On crée les scènes qui vont être favorables, d'une certaine manière, à un nouvel aménagement. Et ça, c'est évidemment toute une stratégie qui va courir des années 80 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2015, l'acte 3 de la décentralisation, etc. C'est 4 décennies, on va dire, d'accompagnement par l'État, qu'on souhaite intelligent, de la décentralisation. Et ça a eu lieu, et il nous semble aussi que cette mécanique décentralisatrice aujourd'hui, elle est épuisée. Elle est, j'ai la lourde tâche de faire le constat des épuisements, tâche à mes camarades de réenchanter tout ça. Alors, cet épuisement de 4 décennies de décentralisation, pourquoi le poser alors qu'on parle encore aujourd'hui beaucoup plus de décentralisation ? C'est que dans les années 70, on a fait la décentralisation, elle avait 3 grands ressorts. C'est bien de le voir, à mon avis. Un ressort démocratique, c'est décentraliser, c'est approfondir la démocratie. Ça, c'était extrêmement important, évidemment, cette idée. Voilà, le livre de Rocard de 66 était très clair là-dessus. C'était décentraliser, c'était décoloniser la République. Donc c'était cette idée, voilà, c'était une idée évidemment très, très ambitieuse d'approfondissement démocratique. La deuxième idée derrière la décentralisation, c'était une idée de renouveau culturel. Il y avait renouveau de culture minoritaire qui aurait été étouffée par l'État central. C'était non seulement les particularités régionales, la Bretagne, le Pays Basque, l'Alsace, etc., mais plus globalement que, au-delà des cultures régionalistes, c'est des cultures minoritaires, quelles qu'elles soient, qui gagneraient à la décentralisation. Et puis, troisième objectif, c'est évidemment un objectif économique. La vitalité économique passe par l'accompagnement, beaucoup plus par l'accompagnement par les pouvoirs locaux que par le pilotage central de l'État. Et toutes ces, d'une certaine manière, mais c'est notre position, c'est de se dire que toutes ces grandes expériences, aujourd'hui, elles existent encore, évidemment. On souhaite plus de démocratie, plus de culture, plus d'économie, mais d'une certaine manière, le vecteur décentralisateur n'est plus du tout considéré comme le vecteur principal d'approfondissement démocratique, de vitalité économique et de renouveau culturel. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, les vecteurs principaux, eh ben, c'est peut-être les réseaux. D'une certaine manière, c'est par les réseaux qu'on pense que, voilà, aujourd'hui, plus de démocratie, c'est peut-être recontrôler Internet, c'est recontrôler les réseaux d'alimentation, remaîtriser les réseaux de fourniture énergétique, etc. C'est-à-dire que, voilà, notre idée, c'est que, le territoire, la décentralisation n'est très certainement plus le vecteur principal d'affirmation de ces ambitions, mais que ça passe par d'autres canaux, plutôt du côté des réseaux, d'ailleurs, et qui nous semblerait intéressant de le tester. Et pour dire qu'aujourd'hui, finalement, la question de la décentralisation qui est toujours présente, on nous propose aujourd'hui une nouvelle loi, etc., etc., sur la décentralisation, mais en fait, ça n'intéresse plus que le monde politico-administratif d'une certaine manière, et que quand on parle de décentralisation aujourd'hui, on ne parle pas de ça, on parle, je dirais, d'ergonomie politique et d'ergonomie administrative. Mais en tout cas, on ne parle plus d'un projet de société, d'une certaine manière, de reconfiguration du territoire. Mais au-delà de... Voilà, faisons... Voilà, d'une certaine manière, on a posé cette image un peu, voilà, mythique. On a dit que les moyens de, qu'on a pensé pendant les décennies précédentes de revitaliser cette ambition d'aménagement sont aussi, d'une certaine manière, épuisés. Mais, et c'est mon dernier élément de ce propos introductif, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, à mon avis, une attente forte, et c'est pour ça, je dirais, qu'on fait ce constat, une attente forte de recréation d'une politique d'aménagement du territoire, parce qu'on l'a dit, vous en êtes aussi les témoins, dès qu'on parle de tout un tas de sujets, dès qu'on parle de crise sociale, de gilets jaunes, dès qu'on parle d'économie, etc., on vous dit aménagement, il faut le recréer, etc. Mais au-delà de ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, et là, on pourrait se dire, bah, c'est un ferment pour repenser ça. On a une obligation de se dire aujourd'hui, bah, comment, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais ça va au-delà, c'est qu'en fait, il me semble qu'on est dans une période où existent, dans les discours publics, des formulations territoriales d'un certain nombre de problèmes de la France. Alors, je vais essayer d'expliquer ça un petit peu mieux. C'est peut-être dire qu'aujourd'hui, on a... dans le débat public, trois représentations spatialisées de ce qui fait problème national. Et que ces trois figures, elles sont concurrentes, pas complémentaires, elles sont assez concurrentes, et qu'elles montrent bien qu'il y a une aspiration très forte à une redéfinition d'une pensée aménagiste. Ces trois figures, vous les connaissez bien. C'est-à-dire comment on représente la problématique spatiale de la France aujourd'hui. Il y a trois figures et que vous connaissez et qui seront certainement débattues, mais que je rappelle. La première, c'est de dire, et on l'a déjà évoqué hier soir, la première représentation, c'est aujourd'hui le grand enjeu, c'est les métropoles et le reste du territoire national. Ça, c'est très présent. Dans les débats, dans les ambitions, etc. Et d'une certaine manière, cette figure se substitue à celle du Paris et le désert français qu'on entend moins, mais qui en reprend des éléments, c'est de dire qu'en fait, on a une opposition entre les territoires à forte densité humaine, économique, etc., et de richesse et autres, et les autres parties du territoire national. Et par rapport à Paris et le désert français, peut-être la différence, c'est qu'aujourd'hui, Paris et le désert français, c'est que peut-être ce qui fonde cette représentation que c'est la bonne manière de penser les enjeux d'aménagement du territoire national, c'est peut-être moins des questions économiques, quoique, voilà, des équilibres économiques, les métropoles auraient plus de richesses que les autres, etc., comme autant de Paris des Arts français, mais l'idée aussi qu'il y a une divergence d'ordre socioculturel entre la manière de vivre dans les territoires non métropolitains et les métropoles. Ça, notre collègue Jacques Lévy, il insiste beaucoup là-dessus. Quand il dit qu'il y a des degrés d'urbanité, c'est ce qui signifie. C'est-à-dire qu'on ne vit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes valeurs. Il y a donc une forme de divergence socioculturelle qui se manifeste parce qu'on n'a pas le même rapport aux autres. Il y a une diversité culturelle beaucoup plus grande dans les grandes villes, etc., peut-être. Et donc, se construit des visions du monde un petit peu différentes. Je suis un petit peu, voilà, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a dans beaucoup de propos. Deuxième manière de lire ce territoire national et donc de fonder, c'est une vision aussi assez classique qui a déjà existé par le passé, mais qui revient, c'est de dire, c'est l'idée d'armature. C'est de dire, voilà, notre territoire, là on l'a beaucoup, c'est de dire... quelle vision du territoire, c'est de dire bah, l'ambition, c'est plutôt de dire il y a des métropoles, il y a des grandes villes, il y a des villes moyennes, il y a des petites villes, il y a des bourgs, et que c'est quoi l'enjeu d'aménagement du territoire aujourd'hui en France? C'est de redonner à chacun de ces échelons territoriaux, de redéfinir la fonction de chacun de ces échelons territoriaux dans le territoire national. Parce qu'aujourd'hui, ils sont bouleversés, ça se déplace, on ne sait plus ce qu'est une ville moyenne, les centres se dépeuplent, etc. Enfin, bref, pas se dépeuplent, mais enfin, non plus la vitalité commerciale qu'ils pouvaient avoir, etc. Et donc, de dire, voilà, si on devait définir la représentation cartographique, bah, on ferait une carte de l'armature territoriale. Et l'ambition, c'est de redonner à chacun de ces échelons sa juste place. Parce que à chaque échelon, on ne sait plus très bien. Voilà. Ils sont tous fragilisés d'une manière ou d'une autre, par, d'un côté par la mondialisation, de l'autre côté par, la périurbanisation. Et donc, voilà, l'ambition, c'est de redonner à chacun, chacune de ces strates de l'armature nationale, sa bonne place, son sens, sa contribution. Parce qu'aujourd'hui, chacune de on ne sait pas très bien exprimer tout cela. Et donc ça, bah, pour le dire, il y a le plan des villes, le plan Action Cœur de Ville, il y a le plan sur les petites villes, etc. On voit bien que ça c'est une manière de problématiser qui est prise en charge par un certain nombre de politiques publiques. Enfin, la troisième manière de lire, qui est vraiment cette fois-ci moins diffusée, mais c'est de dire non, quand on regarde les enjeux du territoire national, c'est redécouvrons d'une certaine manière nos inégalités interrégionales. Ça, évidemment, qui était très puissante aussi à un moment, ça a été un grand vecteur de pensée de comment des grands enjeux du territoire national. On a eu la fameuse ligne Saint-Malo-Genève, etc., les grandes inégalités, la France du Nord, la France du Sud, en termes de niveau éducatif, en termes d'industrialisation, etc. Et aujourd'hui, bah, il faut redécouvrir ces divergences très très fortes entre cette fois-ci, bah, vous savez bien, la ligne Saint-Malo-Genève, elle est inversée d'une certaine manière, et, enfin, parce que c'est plutôt... on va dire, on a des grands territoires qui souffrent depuis extrêmement longtemps. C'est la Lorraine, je dirais, les territoires qui ne se sont pas mis de la première révolution industrielle. Ben, ça fait cinq décennies, d'une certaine manière, qui sont à la peine, hein, dans le territoire national, la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, etc., qui sont toujours en retard, qui ont du mal à combler ça. Et puis aujourd'hui, on a en plus tous les territoires qui sont, en difficulté économique, lié aux pannes des industries fordistes. Cette fois-ci, c'est le bassin parisien, c'est-à-dire celui qui a reçu toutes les économies, tout le redéploiement industriel des années 50-70. Aujourd'hui, ce grand bassin parisien est en immense difficulté économique. Et donc, voilà, qui en parle de ça? Ben, il y a France Stratégie, qui a sorti une note en 2015 très intéressante qui refait la ligne Saint-Malo-Genève inversée, d'une certaine manière, en mettant très clairement en évidence ces difficultés-là. C'est aussi Mezza Voce, le CGET, qui publie des cartes des quatre France pour dire que voilà, en fait, bah, c'est le bassin parisien, etc. On voit bien toutes ces difficultés. Et puis, c'est l'émergence aussi de très discrète, hein, mais de dire voilà, il doit y avoir des grandes politiques régionales sur le bassin parisien, sur voilà, qui émergent doucement sur un certain nombre de scènes. On voit bien qu'en fait, il y a ces trois manières d'énoncer les enjeux territoriaux d'une nouvelle politique d'aménagement. Ils sont là. Ces idées, il me semble, présentes. Il y a des lieux où elles s'énoncent. J'en ai cité quelques-uns, des lieux de l'administration, des lieux de l'université, des lieux politiques, etc. Mais c'est un point commun, il me semble, c'est que dans toutes ces visions, il me semble que ces visions sont en panne d'alliance avec des acteurs qui sont extrêmement importants pour qu'on passe, je dirais, de la vision de l'énonciation à, je dirais, une action collective qui soit en capacité de répondre à chacune de ces trois grandes lectures, les métropoles RS, c'est les acteurs économiques, industriels, etc., qui sont d'une certaine manière, mais c'est peut-être, un peu indifférent à tout ça. On n'a pas de partenaires et que, voilà, ils sont pas extrêmement présents. Et à la différence d'eux, quand on a, et c'est aussi peut-être ça, c'est que quand on a eu, toutes les grandes périodes politiques d'aménagement du territoire, et ça c'est peut-être un point qui fera débat, mais c'est une lecture que l'on partage tous les trois, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des grandes politiques nationales d'aménagement du territoire, elles se sont faites en articulation étroite avec des acteurs industriels, économiques, financiers, puissants. Elles se sont faites avec, elles ne se sont pas forcément faites totalement pour, c'est-à-dire on voulait infléchir leur trajectoire, leur ambition territoriale, etc. Elles ne se sont pas faites, mais elles ne se sont jamais faites contre. Et typiquement, quand on revient à la grande période des années 60, bah de, voilà, la décentralisation industrielle, ça s'est fait avec Renault, ça s'est fait avec... Et aussi, toute la grande politique d'aménagement des villes nouvelles, etc., s'est fait aussi avec tout un tas d'acteurs économiques qui ont financé des logements sociaux, des assurances, des GAN, des, enfin, tout ça s'est fait, je dirais, quand on revisite tout ça, tout, à chaque fois qu'on avait puissamment eu de l'action, bah, il y avait tout un tas d'acteurs, pas tous, mais au moins une large partie d'entre eux qui contribuaient, qui avaient envie de contribuer à la mise en œuvre de tout ça. Juste en aparté, si peut-être aujourd'hui le Grand Paris marche bien, en région Île-de-France, on a peut-être retrouvé cette grande alliance État, tout un tas d'opérateurs économiques. Et le Grand Paris, ça fonctionne aussi par ça, c'est-à-dire qu'ils sont là, tous les grands acteurs. Mais à l'échelle nationale, aujourd'hui, ils sont absents, il nous semble. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans le colloque, on a voulu les inviter, les écouter, non pas pour les suivre, mais pour comprendre, d'une certaine manière, quelles sont aujourd'hui leurs ambitions territoriales, parce qu'on a la conviction que cette refondation ne peut pas partir sans une écoute attentive de leurs ambitions. Non pas pour se caler sur celle-ci, c'est complètement absurde évidemment de construire une politique publique qui serait suivie, ça n'a pas de sens, c'est pas ça, mais en tout cas avec la conviction qu'elle ne peut pas être indifférente à leurs propres préoccupations si elle veut avoir une opportunité, je dirais, de percolation sociale et d'efficacité. Voilà pour le propos, je dirais, introductif qui... Voilà, pour poser ces images et ces opportunités de refondation dans le débat social.
Merci Xavier. Stéphane, qu'est-ce que tu fais de tout ça avec un regard plus sur le présent peut-être?
Alors, vous ne vous en rendez pas compte, mais il se passe toujours quelque chose à Cerisy d'imprévu. Et Xavier, dans son propos introductif, a déjà transformé l'introduction que nous devions faire, finalement. Puisque c'était assez rationnel et assez scolaire, je dirais. Il y avait l'approche historique, les grandes étapes, les grands moments. Vous voyez que le propos a largement dépassé cette mise en scène historico-politique. Je devais faire, d'ailleurs de manière... peut-être un peu ironique, je devais être le candide ou l'ingénu ou le sceptique, celui qui dit, ben voilà, ça ne fonctionne plus, ou en tout cas, certains mots que l'on prononce nous obligent à nous interroger sur la question aménagiste. Et puis Martin devait embrasser tout ça et nous guider vers la solution réseau, pour faire simple. Bon. On n'est plus trop là-dedans et en écoutant Xavier, je me disais qu'est-ce que j'allais dire, évidemment. Comme nous sommes là pour penser qu'il faut rationaliser tout ça, je me suis dit non, mais j'avais du mal à comprendre l'introduction. Finalement, c'est pas tant une séquence type introduction de dissertation, c'est plutôt une reformulation à partir de points de vue différents de la problématique qui nous intéresse. Donc, il risque d'y avoir des répétitions, mais j'adopte ce point de vue ce point de vue peut-être un peu différent. D'ailleurs, si on est capable, dans la simple formulation, d'adopter des points de vue différents, ça nous dit quand même déjà quelque chose de notre objet, il me semble. Je disais ironie de me trouver à cette place pour tenir cette partie de discours, parce que finalement, Martin le soulignait, celui qui est le plus engagé dans la politique d'aménagement au sens institutionnel, dans les trois, c'est plutôt moi, puisque travaillant pour le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui s'est substitué à la DATAR, je dirais que je suis le plus près de l'action. Ça pourrait se discuter, mais on va partir de cette hypothèse. Et quand même, me confier le rôle du sceptique par rapport à la politique d'aménagement, alors que je travaille pour l'institution qui est censée faire perdurer et continuer à animer ce processus, c'était un peu osé. Mais bon, je me soumets au sacrifice. Et puis, je m'engage tout de suite sur un pas de côté. Le pas de côté est celui-ci. Nous avons peut-être tous dans la salle, en tout cas assurément tous autour de cette table, c'est ce qui nous réunit d'ailleurs, à un moment ou à un autre, écrit, parlé, dit, et fait nôtre cette hypothèse qu'il y avait une crise de l'aménagement du territoire, si le mot « crise » n'avait pas été encore employé. Alors, je, dans le programme, et puis je, si je reprends les mots qui ont été utilisés, alors moi j'utilise « crise »,« obsolescence »,« épuisement »,« disparition ». Et finalement, ce qui nous réunit là, sans qu'on questionne vraiment, puisqu'on en est déjà à la refondation, c'est l'utilisation de ces mots. C'est-à-dire qu'on ne se pose, on se demande pas, ou on ne se demande plus si finalement ce constat d'une crise en soi est fondé. Vous avez vu le subtil artifice du pas de côté. Non, mais c'est assez intéressant quand même, parce que pour se réunir ici, ça signifie qu'on partage tous, je le dirais, on partage tous cette idée qu'il y a bien une crise de l'aménagement ou il y a bien une disparition de l'aménagement. Et en y réfléchissant, il me semble que c'est un point de vue qui peut être très discutable, ou en tout cas que la discussion de ce constat permettrait sans doute de clarifier un petit peu là où on veut aller. Donc la proposition, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas, avant même de refonder, enquêter sur cette espèce de constat que l'on partage pour comprendre, non pas ce qu'est la crise, mais pourquoi on pense qu'il y a crise. Et pourquoi ça devient quasiment... je veux dire, il n'y a plus un colloque sur l'aménagement ou une conférence sur l'aménagement, on ne dit pas il y a une crise de l'aménagement. Pourquoi ça devient un lieu commun ? Il faudrait mener une enquête. Et quand on mène une enquête, en général, on s'intéresse à deux choses. On s'intéresse d'abord à des témoignages. L'enquêteur, il va voir des témoins, il les écoute. Et puis, on cherche des indices. Si on s'intéresse aux témoignages, effectivement, les acteurs qui mentionnent l'idée ou qui mentionnent cette crise de l'aménagement sont assez nombreux. Il y a nous, déjà, manifestement, puisqu'on est là. Il y a évidemment les élus locaux. Il suffit d'aller, d'écouter ce qui sort du Sénat ou de la commission aménagement de l'Assemblée, et de ça depuis un certain nombre d'années. Alors peut-être que ce serait intéressant, Xavier, par rapport à ton propos, de savoir si finalement c'est pas consubstantiel de l'aménagement que de très régulièrement dire que l'aménagement est en crise, mais je ne vais pas m'intéresser à la dimension historique, donc je le fais à plat. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde les rapports qui sortent des commissions sénatoriales ou des commissions de l'Assemblée nationale, les élus sont très nombreux à dire il y a une crise de l'aménagement, il y a une disparition, il n'y a plus d'aménagement du territoire. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ce ne sont pas n'importe quels élus. Et la première idée qui me semble intéressante de souligner, c'est que ce constat me semble à la fois partiel et partial. À l'Assemblée ou au Sénat, les élus qui font part de cette crise de l'aménagement du territoire, c'est moins les grands élus métropolitains que les petits élus ruraux. Donc la question de savoir si cette crise de l'aménagement est un point de vue partagé par l'ensemble des élus me semble poser question. Mais il n'y a pas que les élus qui font ce constat. Il n'y a pas que certains élus, il me semble, qui font ce constat dans les témoins. Il y a aussi les habitants. Tu l'as cité, je ne l'aurais pas cité, je ne reprendrai pas si ça n'avait pas été déjà cité, mais une des choses que l'on a entendues durant la crise des Gilets jaunes, c'était effectivement de dire... il n'y a plus d'aménagement du territoire, il n'y a plus de services, l'état des ménages, enfin bon, je passe les différents messages, mais donc, manifestement, certains habitants aussi se plaignent d'une disparition de l'aménagement du territoire, sans d'ailleurs qu'on aille véritablement interroger la représentation qu'ont les habitants de ce qu'était l'aménagement du territoire ou de ce que devrait être l'aménagement du territoire. Dit autrement, on a un peu l'impression que là, l'aménagement du territoire est invoqué comme une espèce de puissance magique qui résoudrait des problèmes sociaux sans qu'on sache pas trop la manière de l'attraper. En tout cas, il y a une injonction ou il y a un questionnement. Et puis, je suis sûr que si je vous donnais la parole, mais Martin sera contre, si je vous donnais la parole, vous seriez capable de produire comme ça, de faire part d'autres témoignages de personnes, quel que soit leur rôle, qui se plaignent de cette crise de l'aménagement du territoire. C'est une possibilité. Et en même temps, puisque l'idée est de faire débat, il me semble qu'on pourrait tout à fait dire le contraire. Dit autrement, on pourrait aussi tout à fait trouver des acteurs qui ne partagent pas du tout ce point de vue et qui considèrent que il y a de l'aménagement du territoire et que ces acteurs en particulier sont des acteurs qui encore pensent contribuer à l'aménagement du territoire. Si je m'intéresse au CGET ou en tout cas au service de l'État qui continue à faire de l'aménagement du territoire, je dirais en plus des collectivités, si je me fie à ton propos introductif, Xavier. Le CGET, par exemple, aller voir les collègues pour leur demander, pour leur dire il n'y a plus d'aménagement du territoire, il y a une disparition de l'aménagement du territoire, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seraient pas d'accord avec cette idée. Pourquoi ? Parce que c'est leur métier, c'est ce qu'ils font à longueur de journée. Aller voir les présidents de région, alors qu'ils viennent de se doter et d'une responsabilité et d'une compétence et d'outils pour aménager leurs espaces et leur dire il n'y a plus d'aménagement du territoire, je ne suis pas sûr qu'ils seraient tout à fait d'accord pour partager ce point de vue. D'ailleurs, c'est très intéressant ce qui se passe dans les régions. Hein. Je pense qu'il y en a à minima deux qui, de manière fort symbolique, il y aurait aussi là à s'intéresser sur l'inconscient qu'il y a autour de ça, deux régions qui viennent de créer une data régionale. Il y en a peut-être plus, hein. J'en connais au moins deux, à savoir Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France. Je pense que ces élus-là ne partageraient sans doute pas le point de vue qu'il n'y a plus d'aménagement du territoire ou qu'il a disparu. Donc, le constat lui-même, on voit que, enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse, qu'il n'est peut-être pas aussi bien partagé que cela. En tout cas, il y aurait sans doute controverse. Et puis, autre manière de s'intéresser à ça, c'est de s'intéresser non plus aux témoignages, donc qui sont moins univoques, on pourrait le laisser penser, mais c'est de s'intéresser aux indices. Quels sont les indices qui, collectivement ici, nous laissent penser qu'il n'y a plus d'aménagement du territoire ? Je vais adopter un point de vue partiel, puisque c'est une hypothèse parmi d'autres, qui est de dire que finalement, la disparition de l'aménagement du territoire, c'est peut-être la disparition d'un point de vue global, complet, sur ce qu'est l'aménagement du territoire. Une espèce de dispersion, de dilution de l'aménagement qui fait qu'on n'arrive plus à le saisir complètement. Alors, quels seraient les indices qu'on pourrait mobiliser ? Alors, en général, quand on parle de la crise de l'aménagement du territoire, on glisse assez rapidement sur ce qui pourrait être la crise, ou en tout cas la critique de l'État. Tu y as échappé, mais pas complètement. Donc c'est moi qui vais le faire, parce que a priori, qui aime bien châtie bien. Alors les indices de la crise de l'aménagement, intéressons-nous simplement à la manière dont l'État central et déconcentré gère aujourd'hui l'aménagement, ou ce qui s'est passé dans l'évolution des 10 dernières années de la posture de l'État. En disant l'aménagement, qui d'ailleurs officiellement n'existe plus dans les portefeuilles ministériels, a changé 4 fois de nom. Aménagement des territoires, compétitivité, égalité, cohésion. Donc effectivement, d'un certain point de vue, il y a un message qui peut paraître brouillé. Qu'est-ce que c'est que ces changements de nom ? Qu'est-ce que c'est que cette transformation finalement de l'État qui était le grand acteur de l'aménagement, qui semble ne plus savoir où il est ni où il va et qui... à coup de changement de nom, de propositions conceptuelles qu'on n'arrive même pas à définir, d'absence de grands récits, etc., semble, à la faveur des changements de président ou des changements de gouvernement, proposer une nouvelle façon de faire de l'aménagement. Ça, c'est un indice, effectivement, c'est sans doute un indice fort, parce que si j'en juge par le temps auquel le temps que nous avons consacré collectivement à tenter de définir ce qu'on appelle l'égalité ou la cohésion, sans parvenir à des résultats très concluants, là on voit qu'il y a une forme de patinage, mais en même temps il y a de l'activité, hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de l'activité, mais il y a un indice quand même de trouble ou de confusion. Je pense que le terme de confusion est assez intéressant. Deuxième indice, toujours au niveau de l'État, mais je vous ai dit que j'adoptais un point de vue partiel, c'est qu'en termes organisationnels, l'administration d'État qui gère l'aménagement est quand même en chambardement continu depuis 10 ans. D'ailleurs, cela m'étonne que, en sciences de gestion, les collègues n'aient pas encore pris la DATAR et le CGT comme modèle de conduite de changement permanent, ou contre-modèle de conduite de changement permanent. Alors, j'ai des collègues qui sont là, j'espère qu'ils me pardonneront cette offense à l'institution, mais enfin, quand même, ça fait 10 ans que nous sommes en perpétuelle réorganisation, et évidemment, on n'est pas dans un management analytique, hein, donc on n'est pas capable de compter le temps qu'on passe à se réorganiser et le temps qu'on passe à produire. Mais enfin, globalement, on voit bien que, sans être un spécialiste de la sociologie des organisations, on voit bien que on a plutôt des fonctions et du temps passé sur le contrôle, sur la réorganisation, sur les fiches de poste, sur tout ça, sur la complexification des systèmes d'information, qui semblent de plus en plus présents par rapport au temps passé à produire. Alors, je crois que dans la salle, parmi les collègues, il n'y a aucun nostalgique de la data, j'en fais pas partie. Vous savez, entre nous, on dit il y avait les archéos. Les archéos, c'est ceux qui ont connu la data pendant très longtemps, qui ont très mal vécu le passage au CGET. Il y a forte chance qu'ils vivent très mal aussi le passage à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Alors, les archéos, ils sont contre tout ce qui change. Hein. Mais quand même, sans être un archéo, force est de constater qu'entre un CGET qui est devenu administration centrale avec 5 niveaux hiérarchiques, qui est devenu une vraie administration centrale, hein, avec tout ce que ça veut dire, par rapport à une DATAR qui était une administration de mission où il y avait 3 niveaux hiérarchiques, ça dit quand même quelque chose. Ça dit quand même quelque chose. Donc là, peut-être est-ce aussi un indice d'une certaine confusion, d'une certaine crise. Et puis, alors, parce que Martin va bientôt me... Ça va, j'ai encore un peu de temps. Les indices comme ça, on pourrait, il me semble, les multiplier, surtout si on s'intéresse justement à ce qui se passe au niveau de l'État. Je pense que vous pourriez tous témoigner de l'évolution des services déconcentrés de l'État qui s'occupaient de l'aménagement. D'ailleurs, en général, quand les élus locaux disent qu'il n'y a plus d'aménagement, il me semble que c'est moins par regret d'une perte de vision globale, etc., que souvent de la perte du conseil local des services déconcentrés qui apportaient une expertise et qui aujourd'hui n'existe plus, puisque les différentes, pour le coup, réformes de l'État et menées à la fois par Sarkozy et par Hollande sur les réseaux déconcentrés ont effectivement très largement diminué la capacité d'expertise et de conseil des réseaux déconcentrés de l'État. Donc, de ce point de vue, il y a effectivement des indices qui semblent montrer une forme d'épuisement ou en tout cas de crise, peut-être pas de l'aménagement, mais de ceux qui agissent ou qui font la politique d'aménagement. Et puis, je vais faire la même chose qu'avec... alors, à nouveau, si je vous donnais la parole, je pense que vous pourriez citer plein d'autres indices de ce type-là. Et je me fais l'avocat du diable et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres indices qui nous dirait l'inverse? Est-ce qu'il n'y a pas des indices qui montreraient que finalement, non pas la politique d'aménagement, mais l'aménagement, finalement, continue à se développer, à se... Non, il me semble qu'il y a des indices. Il me semble, et c'est pas de la rhétorique, que paradoxalement... parmi les témoignages que j'ai convoqués tout à l'heure, d'élus ou d'habitants ou de collectifs, les plaintes qui viennent de divers endroits et qui font part de l'absence d'aménagement du territoire peuvent aussi être analysées ou comprises comme un souci et une réelle volonté de s'engager dans l'aménagement. Dit autrement, quand un collectif d'acteurs locaux, en même temps qu'il se plaint parce qu'il n'y a plus d'aménagement ou insuffisamment d'aménagement, et qu'il se prend en charge et qu'il devient lui-même acteur de l'aménagement, j'ai tendance à croire que malgré ce discours de l'abandon, il se passe quelque chose qui relève bien de l'aménagement. Vous voyez, je ne sais pas si vous me suivez, c'est un peu, je vous l'accorde, c'est un peu osé comme... mais l'occupation des places, les ZAD, histoire de dire qu'on ne fait pas que de l'aménagement de droite, quoi. Il me semble que ce sont des expériences d'aménagement à part entière et qu'il faut considérer en tant que telles, même si par ailleurs elles s'accompagnent d'un discours de la disparition de l'aménagement. Donc il y a là... il y a là quelque chose qui me paraît intéressant à sonder. À nouveau, je vais pas m'étendre, mais il me semble que on pourrait trouver de nombreux indices comme cela, d'acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs professionnels, institutionnels, institués de l'aménagement, mais qui, par la force des choses, tout en tenant un discours critique sur la disparition de l'aménagement, se font eux-mêmes aménageurs. Et si j'osais, je dirais, quand des bobos parisiens, pour filer l'image, se mettent à végétaliser la ville, je sais, c'est encore aussi un peu osé, mais on peut se demander dans quelle mesure ils ne deviennent pas eux-mêmes aménageurs et ne deviennent pas des acteurs ou des actants à l'aménagement au sens générique du terme. Donc, il me semble qu'en tout cas, on peut aller dans ce sens-là. Et puis, je finis mon propos introductif, peut-être en énonçant quelques hypothèses sur ces controverses ou cette confusion que j'ai tenté d'illustrer. Un, est-ce que par crise de l'aménagement, finalement, on ne traduit pas, ou en tout cas on ne dénonce pas, une certaine forme de crise de l'État ou de crise du politique? Alors vous allez me dire, enfin peut-être, oui évidemment, mais si ce n'est que pour ce qui nous intéresse nous, refonder l'aménagement parce que l'aménagement est en crise, c'est pas la même chose que refonder l'aménagement parce que l'État est en crise. Enfin il me semble que la manière de poser la question en tant que telle est assez intéressante, d'un point de vue heuristique. Autre hypothèse, est-ce que la crise de l'aménagement, je pense à l'épisode de Gilets jaunes par exemple, et à l'attitude du politique du gouvernement et de, par rapport à cette crise des Gilets jaunes, est-ce que donc cette crise de l'aménagement, ce n'est pas aussi une manière détournée de faire le constat d'une crise sociale, avec évidemment des conséquences spatiales. Je dis ça autrement, je vais essayer de l'illustrer. Dans le gouvernement actuel, enfin dans ce quinquennat, jusqu'aux Gilets jaunes, la question de l'aménagement était très très peu présente. Vous savez, ce que l'on dit souvent, c'est qu'on a un président qui est extrêmement intelligent, mais qui a vraiment aucune connaissance et qui n'a pas la vision territoriale, qui ne pense pas territoire, qui ne pense pas espace. Et de manière fort opportune, le discours sur l'aménagement d'État officiel apparaît après les Gilets jaunes. Et je peux vous dire qu'en termes de réunions ministérielles, etc., il y a vraiment une accélération à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va chercher l'aménagement du territoire, politiquement, pour répondre à ce qui relève avant tout d'une crise sociale. Ça me paraît... Voilà, et puis, dernière hypothèse... Donc, est-ce que finalement l'aménagement, c'est même logique, hein, est-ce que refonder l'aménagement pour l'aménagement ou refonder l'aménagement en réponse à une crise sociale, qu'est-ce que ça nous dit sur les questions qu'on se pose? Et puis troisième piste du même type, il est assez, si on prend les deux, enfin le quinquennat de François Hollande et le quinquennat d'Emmanuel Macron, même s'il n'est pas fini. Quand on regarde de l'intérieur comment se font les politiques d'aménagement d'État, il y a quelque chose qui a changé. Alors, c'est vraiment dans la mécanique, donc peut-être que vous ne le percevez pas. C'est qu'on est passé, il me semble, d'une logique assez horizontale d'interministérialité. Alors, c'est l'État quand même, hein, donc prenez-le avec les guillemets qu'il faut, mais dans la manière même de produire la politique, dans la fabrique politique, on est passé d'une logique assez horizontale, finalement, d'interministérialité, qui était fondamentale, tu ne l'as pas dit peut-être, mais qui était fondamentale dans l'aménagement. D'ailleurs, interministérialité, la DATAR était rattachée au Premier ministre, petit à petit, ça a glissé. Donc une posture beaucoup moins favorable aujourd'hui pour faire de l'interministérialité. À une posture beaucoup plus verticale, y compris dans la négociation avec les élus et les collectivités. Je m'explique, l'ensemble des politiques de François Hollande sur l'aménagement du territoire peuvent être lues comme des politiques qui ont tenté de traiter tous les objets, mais peuvent être lues aussi comme des politiques qui ont permis de satisfaire les attentes des différents représentants de collectivités locales. Dit autrement, on ne traite plus horizontalement avec l'ensemble des acteurs par politique, on traite verticalement avec les représentants de certains types de territoires qui se sont appropriés certains types de problématiques. Et ça, c'est très très différent. Le quinquennat de François Hollande, c'est quelque part des politiques d'aménagement qui étaient aussi produites pour satisfaire les attentes de l'Association des départements de France, de l'Association des maires ruraux de France, enfin, etc., etc. Si j'étais José, je dirais il y a un côté un peu clientéliste dans l'histoire. Et très clairement, la manière dont on continue dans ce quinquennat à faire des politiques fonctionne exactement de la même manière. Si vous amusez à aller voir politique des centres-bourgs, politique tiers-lieux, politique territoire industriel, à chaque fois, il y a bien de la concertation, mais la concertation se fait avec un partenaire des associations d'élus et jamais avec deux en même temps. Donc, c'est assez intéressant de savoir si finalement, aujourd'hui, la politique d'aménagement du territoire consiste encore à aménager le territoire au sens où on l'entend, ou est-ce que ça devient un objet de négociation politique entre les différents partenaires que sont l'État, les collectivités, etc., et dans une logique autre. Parce que, évidemment, si on s'intéresse à la refondation de l'aménagement du territoire, c'est pas la même chose de considérer que l'aménagement, c'est l'aménagement du territoire, ou si ça devient plutôt un objet transactionnel entre différents acteurs politiques qui exercent des pouvoirs à différentes échelles et sur différents registres. Voilà mes trois propositions.
Merci Stéphane. Moi, je vais être court parce que mon propos, il est volontairement ramassé sur ce qui peut vraiment incarner une pensée aménagiste, à savoir quelques-uns de ces concepts que Xavier a évoqués, mais n'a pas ouverts, et que Stéphane n'a même pas besoin d'utiliser, puisqu'il a abordé tout de suite la question de ce que la crise, entre guillemets, parce que tu le réfutes, de l'aménagement du territoire pourrait cacher. De quoi le discours sur la crise est, enfin,
témoigne,
exactement. Alors, je reviens sur ces quelques mots, j'en choisis trois, parce que je voudrais que ça soit une des parties de notre semaine, que d'avoir une exigence sur les figures que tu as évoquées, mais derrière la figure, il y a souvent un principe pratiquement philosophique. Et c'est celui-là que je voudrais revisiter. Je prends les trois mots les plus simples qui m'apparaissent être au fondement du discours politique aménagiste depuis la toute petite communauté de communes qui le manipule aussi à sa façon,
dans la transaction entre les petits et les gros, les urbains et les ruraux, le centre et la périphérie, et qui fait, dans son projet de territoire ou à l'occasion d'une quelconque construction politique, œuvre d'aménagement à son échelle jusqu'à l'échelle nationale où il en est en permanence question. Les trois mots que je vais mettre en débat pour les revisiter et dire que ça aussi c'est le boulot qu'on a à faire, c'est le mot équilibre, le mot proximité et le mot autonomie. Avec ces trois-là, vous fabriquez n'importe quel discours d'aménagement aujourd'hui. Ou plus exactement, il n'y a pas un discours d'aménagement qui ne pose pas ces trois boîtes noires. Elles sont réellement noires parce que, évidemment, dès qu'on ouvre la question de l'équilibre du territoire, ça devient extrêmement obscur que de savoir ce qu'est un territoire, ce que serait un territoire équilibré ou ce que serait une politique équilibrée du territoire. Pour en donner juste une évocation, dans le cadre d'Esradet, un certain nombre de présidents de région ont trouvé astucieux de promettre que 1 euro dans l'urbain serait accompagné d'1 euro dans le rural. Et puis quand on essaie de comprendre ce que ça signifie, à part une très grande régression du soutien aux territoires ruraux qui, évidemment, rapportés à la population, sont beaucoup plus soutenus que les territoires urbains, c'est une promesse qui n'a pas de sens. Il y a comme ça une... Ou alors, évidemment, la proximité qui s'est incarnée dernièrement dans la proposition de créer une maison de service public dans chaque canton. Ce qui laisse assez rêveur, puisque, évidemment, le canton, aujourd'hui, c'est pas tout à fait la maille d'accès, le périmètre dans lequel le quotidien aurait intérêt à trouver un guichet. Le fameux guichet unique, bien sûr. Dernière figure, l'autonomie, qui se décline magistralement au plan alimentaire, énergétique, serviciel, de la solidarité, et dont immédiatement on se rend compte qu'elle est le contraire de ce qu'elle dit, puisqu'il ne peut pas y avoir d'autonomie énergétique à l'échelle d'une communauté de communes ou d'un pays, ou encore moins d'un PCAET, enfin, dans le cadre qu'il élabore, qu'il ne peut pas y avoir d'autonomie alimentaire, quoi qu'on porte comme idéaux le discours locavore à l'échelle d'une métropole, que tout ça fait des promesses qui doivent enclencher quelque chose, mais évidemment pas ce qui est désigné comme ce qu'on pourrait appeler une forme d'autonomie ou une forme de proximité ou une forme d'équilibre. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer, je pourrais le renforcer, de faire le procès de ces termes, comme je vais le faire très très rapidement, trop rapidement certainement, mais j'espère qu'il n'y a pas d'enfumage dans vos esprits, comme il n'y en a plus, je pense, sur la question d'égalité, par exemple, hein, parce que, donc, effectivement, tu l'as rappelé, 2-3 ans d'efforts assez pathétiques. Maintenant qu'on a fait le commissariat général de l'égalité des territoires, quelqu'un pourrait-il nous dire de quoi il s'agit? Alors voilà, on fait des rapports, Éloi Laurent, etc., etc., puis à la fin, on se met d'accord sur le fait qu'effectivement, ça, c'est pas le bon terme. Et il faut parler de justice spatiale, où il faut, bref, mais pas d'égalité des territoires, parce que c'est porteur d'extrêmement de confusion. Je reviens pas sur toutes ces questions-là avec les trois termes que je viens de bosser. J'essaye de voir comment, avec vous, et je nous invite à y réfléchir, et je le répéterai aux opérateurs de réseau, parce que il y aurait un grave danger à ce qu'ils absorbent ces promesses à leur tour et qu'ils fassent semblant de les porter. J'essaie de voir ce que la société dit quand elle continue à parler d'équilibre, de proximité et d'autonomie, et quand elle continue à exiger qu'on lui parle d'équilibre, d'autonomie et de proximité, qu'on continue à faire ses promesses et que l'aménagement du territoire soit le cadre politique qui formule ces promesses. Je commence par commodité, mais je suis présenté dans ce sens-là, par le terme de proximité. Donc, tout le monde sait que nous sommes dans une société d'accès, qu'une très grande partie des ressources de nos services, de nos moments sociaux, de ce qui fait que nous sommes proches les uns des autres, s'incarne par de plus en plus de distance physique et de plus en plus de proximité technique, de médiation, parfois évidemment parfaitement technologisée et d'autres fois sur d'autres registres, notamment culturels, et ça fait beau temps, puisqu'on cite souvent cet article de Chamboredon et Lemaire sur la proximité spatiale et la distance sociale, ça fait beau temps qu'on a dissocié l'idée qu'il suffirait qu'il y ait coprésence pour que une satisfaction en soit tirée, et donc dans le cas d'espèce, la proximité de service, c'est pas compliqué, il suffit de mettre la poste au centre du village, tous les services afférents à la demande sociale au même endroit, dans le grand mythe du guichet unique, etc., etc. Et donc cette promesse, elle est constamment répétée, elle est extrêmement endossée par le politique qui en a fait une des ressources de sa légitimité majeure. nous sommes en permanence dans le rappel à la proximité et à sa bienfaisance et à sa nécessité absolue. En réalité, pendant ce temps-là, la société, elle est moins proximiste, si on peut dire, que jamais, parce qu'elle est de plus en plus connectée, parce qu'elle est de plus en plus à distance, ce qui pose d'énormes problèmes culturels, de nouvelles formes d'inégalités, de fractures, etc., etc., mais n'empêche, hein, donc elle est dans des capacités de régler le proche et le lointain selon des modalités complètement différentes que celles que la Troisième République mettait en scène en mettant autour de la place l'école, la poste, la perception et la mairie. Effectivement, tout était proche. Mais dans une société où on dépassait pour l'époque, je suis en 1880, effectivement assez rarement les limites du canton. Donc on n'en est plus du tout là. Et par conséquent, la proximité, elle est sur les réseaux, elle est sur la toile, elle est sur des réseaux immatériels et organisationnels, elle est aussi dans des présences et des lieux, hein, dans des points de connexion et des carrefours, etc. Que dit la société qui évoque la proximité? À laquelle il ne faut pas répondre en lui repromettant les figures d'antan. Je crois que fondamentalement, elle demande de l'attention. Elle demande à ce que les situations singulières, les situations personnelles, les situations spécifiques soient reconnues. Et elle exige, elle manifeste d'une façon même désespérée, c'est le terme de désespoir est peut-être le mot le plus important du mouvement des Gilets jaunes, elle exige cette capacité de la politique publique et de la responsabilité publique à faire quelque chose du cas personnel. Et donc les gars l'écrivent sur leur gilet derrière, hein, ils parlent d'eux, ils expriment explicitement le fait qu'ils sont un citoyen désespéré, ou ils sont une personne en détresse, etc. Et au nom de cette... de ce désespoir personnel, on fabrique un discours sur le fait que la prise en charge de cette demande d'attention, c'est bien la preuve qu'il nous faut encore et toujours une politique qui organise la proximité des services, la proximité des guichets, la proximité des etc. Voilà. Comment est-ce que on reformule un terme, proximité, on le réinvestit, on le décortique et on lui redonne les dimensions et les espoirs sociaux qu'il porte réellement pour que la politique qui le serve ne soit pas celle des maisons de services publics, qui d'ailleurs en réalité se mettent bel et bien en place depuis une vingtaine d'années et ne sont que des points d'accès à des réseaux. Évidemment, hein, parce que on en reparlera dans le détail si vous le souhaitez à certains moments, mais la maison de service public est la vraie fausse promesse que quelque chose peut être offert en un point fixe. Ce quelque chose, ça ne peut être qu'un accès et donc une capacité d'accès au réseau. Comment est-ce qu'on arrive à dépasser l'image archaïque et traditionnelle de ce qui est proche et bon pour aller vers une réponse beaucoup plus complexe, du coup, de ce qui est bon et ce qui est reçu par la personne qui le demande. À distance, pourquoi pas? Par téléphone, pourquoi pas? Sur une plateforme, pourquoi pas? En bas de chez elle, pourquoi pas? Dans la combinaison de toutes ces modalités, certainement, mais à coup sûr, dans une attention très personnelle aux demandeurs, aux services, aux requérants, à l'adhérent, à la locataire, à l'ayant droit, etc., etc. Beaucoup plus personnel qu'aujourd'hui. C'est-à-dire déplaçant la conception même de ce qu'est une politique publique qui, par définition, cherche des publics, des masses, des collectifs, des catégories. Et puis c'est ça, sa vraie défaillance aujourd'hui, se trouve devant des demandes qui invalident systématiquement les réponses qui sont faites. Non, je viens pas vous voir en tant que représentant de telle ou telle tranche de population, je viens vous voir avec mon problème personnel et je veux que vous le compreniez et que vous le répondiez dans sa singularité. C'est ça que demande la proximité. Qu'est-ce que demande l'autonomie? En réalité, il faut pas être trop méchant avec l'idéal autonomiste, notamment l'idéal, enfin j'en ai cité les deux principaux, hein, sur l'alimentation et sur l'énergie, parce que je pense qu'on va pouvoir évacuer, j'espère pouvoir évacuer rapidement dans cette société l'idée que franchement, regardons notre assiette et cessons de considérer qu'on va pouvoir s'en sortir dans un rayon de 20 km. Et regardons nos modes de vie et nos consommations énergétiques et cessons de considérer que la communauté de communes sera le bon cadre de la production et de la consommation. Tout ça n'est pas sérieux et ne devrait pas résister très très longtemps au débat public. Mais ce que demandent les groupes, les fameux acteurs qui font peut-être de l'aménagement à la place de ceux qui n'arrivent plus à en faire, c'est pas de l'autonomie, c'est de la capacitation. C'est du droit à faire, c'est du droit à contribuer, c'est du droit à produire donc la ressource alimentaire, à produire des solutions énergétiques, à produire des services, à produire de la solidarité, à produire des logements, à produire. Donc effectivement, de ce point de vue-là, tu as raison, l'aménagement du territoire n'est pas mort. Il est plus vivant que jamais, parce que, à condition de bien vouloir changer les mots quand même, aménagement, territoire, proximité, équilibre, autonomie, il est truffé de gens qui rentrent sur la scène. Et donc, ce qui nous intéresse particulièrement cette semaine, on aurait pu prendre d'autres points de vue, mais c'est quand même les grands opérateurs de réseau, notamment pour la raison que tu as dite, qui sont là depuis plus d'un siècle. À côté, dedans, entremêlés, pas vraiment, etc., etc. Bon, à partir du moment où on dit non, je ne porte pas une politique d'autonomie, on cesse de demander à tous les territoires de faire la preuve de leur autonomie stratégique à coup de plans de ceci et de schémas de cela, et on conduit des politiques de mise en capacité des individus et des collectifs, et donc des endroits où ils se trouvent, territoires, autant de systèmes d'acteurs. On déplace le terme, on le reformule. Cette perspective de la reformulation, de mon point de vue, c'est le fond de l'affaire. C'est-à-dire, sinon, effectivement, nous sommes dans un colloque qui explore les déplacements du système d'acteurs en disant l'aménagement du territoire, c'est plus eux, en fait c'est eux, donc ce qu'on appelle la crise, c'est simplement un redéploiement des capacités d'action. On prête attention à ce monde privé, à sa reconnexion, à sa puissance économique, où on fait place aux acteurs imprévus, etc. Mais on ne change pas le logiciel. Et le matériel cognitif, les images, les idéaux, resteraient toujours les mêmes depuis Claudius Petit, qui n'a pas utilisé les trois termes que je viens de dire, parce que c'est une stratification plus progressive. Un dernier mot sur équilibre, qui a vraiment une capacité de nuisance considérable dans la promesse politique. Puisqu'à tout moment, vous pouvez dire que ce qui est fait là est déséquilibrant. D'ailleurs, ce qu'on appelait les métropoles d'équilibre dans les années 60 sont aujourd'hui la cause du déséquilibre. Et pourtant, elles n'ont pas spectaculairement transformé leur effet sur le territoire. Elles l'ont renforcé. Elles ont des capacités agrégatives plus fortes, bien entendu. Elles sont certainement plus métropoles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 40 ans. Mais c'est tout à fait fascinant de considérer que ce qui était un projet politique d'équilibrage, en renforçant Lyon, Bordeaux, etc., etc., est devenu aujourd'hui la cause, la faute du déséquilibre. Donc, du déséquilibre, on peut toujours en trouver. Et c'est la planche d'appel de la revendication répétée que quelque chose ne fonctionne pas dans le système qui est proposé par cette économie, par cette société en mouvement, et que, comme on a le sentiment, ici ou là, côté élu, population ou ailleurs, que on ne comprend plus comment fonctionne ce système, alors on demande qu'il s'équilibre, dans une vision assez fixiste et immobilisatrice de l'équilibre, qui pourrait être pris dans un sens tout à fait différent. En fait, qu'est-ce que demande cette revendication d'équilibre? Elle demande à ce que soit rendu plus clair, plus lisible, plus stratégique, plus partagé, la mise en circulation de tout et de tous. Et non pas l'équilibre au sens de « on en a mis ici, maintenant on va en mettre là, et ça sera donc équilibré. On a fait un effort ici, donc on va le faire ailleurs par compensation. Il y a une logique de cette nature dans les métropoles. On va renforcer son contraire dans un autre contexte parce qu'il faut pouvoir équilibrer les situations socio-territoriales, les modèles de développement et avoir donc une offre équilibrée des espaces qui composent le pays. Ces visions très, égalitariste au fond, hein, les deux termes sont très proches l'un de l'autre, bien entendu, ne colle plus à ce qu'est la vraie détresse d'une société et de ses acteurs, à savoir où est ma place dans les circulations. Alors les circulations quotidiennes, les circulations résidentielles, les circulations de l'ascenseur social qui monte et qui descend, les circulations écologiques, les circulations de ressources, les circulations énergétiques, etc., etc. à la place d'une politique de l'équilibre, une politique des circulations. À la place de la promesse de « vous serez servi parce que l'équilibre des territoires y veille », une promesse de « vous vous y retrouverez parce que vous avez les clés et vous participez à la régulation de ce qu'on pourrait appeler d'une façon générale la circulation ». Ce n'est pas un terme de moi, c'est un terme de Jean Gottman dans les années 60 qui écrit un bouquin tout à fait d'actualité sur cette tension entre le fixe et le flux. Puis avant lui, il y a Cerdin. Et donc, bon, bref, ça vient de très très loin. Voilà. Merci.